franceinter.fr.
Elles vivent au fin fond des océans, dans des eaux extrêmement salées, dans la glace ou même dans la pierre. Ce sont les extrémophiles, ces micro-organismes de l'extrême qui intéressent beaucoup les chercheurs. Et vous particulièrement, Giuseppe Zaccai. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes en ligne depuis Grenoble et vous venez de percer un des mystères de la bactérie Halomonas. Pourquoi d'abord les microbes extrémophiles vous intéressent autant, vous les chercheurs ?
Ils intéressent beaucoup parce que on avait l'impression que ces microbes vivaient dans des conditions où la vie serait impossible, où la température est trop élevée ou trop faible, où il y a des conditions très acides ou des conditions très alcalines ou des pressions très fortes au fond des océans. Donc nous avons commencé à les étudier pour voir un peu comment elles se débrouillaient dans ces environnements. Alors, il y a en plus une situation intéressante, c'est que lorsqu'on cherche la vie extraterrestre, on sait que les conditions là-bas ne sont pas exactement celles qui sont sur Terre, et on cherche donc aussi à comprendre éventuellement comment une vie extraterrestre pourrait s'adapter à ce genre de conditions extrêmes. Ce qui est intéressant pourtant, c'est que la seule condition pour la vie, apparemment, tout peut s'adapter, mais on a besoin d'eau liquide. S'il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de vie. Et donc, ça explique aussi pourquoi, lorsqu'on cherche la vie extraterrestre, on cherche l'eau.
Alors, voilà. Les travaux que vous publiez là, que vous venez de publier, s'intéressent particulièrement à une extrémophile, Halomonas. Quel est son super pouvoir, si on peut le dire comme ça ?
Alors, Halomonas, c'est un genre. Il y a beaucoup d'espèces de ces bactéries Halomonas. Et elles ont des propriétés tout à fait, je dirais, surprenante. Par exemple, une espèce Halomonas a été découverte dans la rouille du Titanic, dans l'eau, et apparemment, c'est cette bactérie-là qui encourage la corrosion aqueuse pour que le Titanic tombe en rouille. On pense que d'ici 2030, il aura disparu complètement.
À cause de cette bactérie.
Alors, on pense que bon, c'est intéressant parce qu'on peut l'étudier justement pour remédier lorsqu'il y a des déchets dont on veut se débarrasser. Mais c'est aussi intéressant à comprendre parce que si on a des plateformes, par exemple, pour le pétrole dans l'eau, on voudrait pas que ces bactéries mangent ces plateformes. Une autre bactérie de l'espèce Halomonas, elle métabolise l'arsenic. Alors ça aussi, c'est comme
l'arsenic.
Alors lorsque vous avez des terrains qui ont été contaminés par des métaux lourds, par des métaux qui sont extrêmement toxiques comme l'arsenic, apparemment cette bactérie, elle les aime bien et elle bouffe l'arsenic. Voilà. Alors vous voyez, c'est intéressant.
elles ont, et c'est ce qui vous a intéressé, la particularité de pouvoir vivre dans des eaux très salées. Hein.
Alors non, ce qui nous a intéressé en particulier dans cette étude, c'est qu'elle peut vivre, Halomonas peut vivre dans des lots où le sel varie. C'est-à-dire que lorsque la concentration en sel est très forte à l'extérieur, la bactérie doit produire quelque chose pour compenser cette forte pression osmotique. Et elle produit une petite molécule qui s'appelle l'ectoïne. Alors, ça nous a intéressé comment cette ectoïne, qui peut être produite à des très fortes concentrations, qui va jusqu'à 20% du poids de la cellule, comment est-ce que cette ectoïne permet à tout le métabolisme, à toute la biochimie qui se passe à l'intérieur de la cellule, de se passer correctement. Et il y avait des idées là-dessus. On pensait qu'il y avait un effet protecteur, par exemple, sur les membranes, sur les protéines. On pensait qu'elle avait un effet sur l'eau, mais on ne savait pas comment. Et les manips que nous avons fait avec une lumière, qui est une lumière très spéciale, qui est un faisceau de neutrons à Grenoble, à l'Institut Louis-Langevin, nous ont permis de voir l'effet de l'ectoïne sur l'eau, l'effet de l'ectoïne sur les protéines, l'effet de l'ectoïne sur les membranes.
Donc ça veut dire que si on m'injecte de l'ectoïne, je peux me baigner dans une mer très très salée alors ?
Non, parce qu'il faudrait quand même que l'ectoïne pénètre dans vos cellules. En revanche, l'ectoïne, ses effets, disons chimiques, ces effets de protection, ces effets sur l'eau sont très utiles parce qu'ils ont des applications en cosmétique et en pharmaceutique. Par exemple, l'ectoïne, elle a un effet qui contre les allergies parce qu'elle protège les cellules contre les allergies. Donc vous avez des sprays nasales qui contiennent de l'ectoïne et qui vous permettent de combattre ces allergies. Elles ont un effet anti-inflammatoire et il y a, par exemple, la dermatite atopique qui fait que les fesses des bébés sont rouges. Il y a des crèmes avec l'ectoïne qui permettent un peu de soulager ça. Et en plus, comme à cause de son effet sur l'eau, qu'on vient de découvrir comment ça se passe, elle a un effet hydratant et c'est dans les gouttes qu'on met dans les yeux, dans les gouttes qu'on met dans le nez pour protéger les muqueuses, etc.
Donc Giuseppe Zaccai, cette molécule là, qu'on trouve donc dans des produits de consommation courante, l'ectoïne, c'est elle qui explique le secret de survie de ces bactéries extrémophiles.
Alors, c'est une la bactérie produit de l'ectoïne. Elle produit de l'ectoïne pour que la concentration de l'ectoïne à l'intérieur de la cellule compense exactement la pression osmotique du sel à l'extérieur. Alors, lorsqu'il y a beaucoup de sel, elle produit beaucoup d'ectoïne. Lorsqu'il y a peu de sel, elle produit peu d'ectoïne. Mm-hmm. Mais une fois qu'elle a produit l'ectoïne, cette ectoïne peut interférer avec l'eau et comme on sait, l'eau liquide, c'est quand même quelque chose de très important. Et il s'avère que cette ectoïne, elle a quand même une propriété tout à fait extraordinaire, c'est que non seulement elle ne interfère pas avec l'eau, parce que l'eau, c'est très important que l'eau soit dynamique, que l'eau puisse bouger, mm-hmm. Et c'est un peu ça qui permet d'ailleurs aux molécules biologiques de se structurer. La structure, on pensait toujours que c'est quelque chose qui va contre les lois de la thermodynamique. La thermodynamique nous dit qu'il faut que tout passe vers un désordre plus grand. Eh bien, la vie, elle, au contraire, c'est quelque chose de très ordonné. Et le prix à payer, c'est que c'est l'eau, c'est le désordre de l'eau qui compense pour l'ordre de la vie. Alors, comment ça se fait que l'ectoïne n'interfère pas avec ce désordre de l'eau, avec cette dynamique de l'eau, alors, des fois on l'appelle la danse de l'eau, c'est qu'elle participe à cette danse, elle permet à l'eau de danser, d'être tout à fait dans ses propriétés extraordinaires pour permettre la vie.
Eh bien, l'eau, on fera un dossier d'ailleurs sur cette question, parce qu'on parle de l'eau liquide, mais ça n'est pas que l'eau liquide qui est nécessaire justement à la vie sur Terre. On en reparlera avec vous, Giuseppe Zaccai, à l'occasion d'une prochaine Tête au Carré, j'en suis sûr. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications sur les secrets de ces bactéries extrémophiles qui sont en train donc de grignoter le Titanic, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Giuseppe Zaccai, merci Axel.
Merci Mathieu.
Allez, à demain. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la croyance populaire qui associe souvent les douleurs rhumatologiques chroniques avec les changements de météo, eh bien une étude apporte aujourd'hui un début de réflexion à ce sujet. 9000 volontaires au Royaume-Uni ont enregistré leurs symptômes quotidiens sur une application pour téléphone portable. Et à mi-parcours, l'équipe de chercheurs a publié ses données provisoires. De février à avril, lorsque l'ensoleillement augmente, eh bien les plaintes rhumatologiques quotidiennes diminuent. Au contraire, lorsque l'hiver vient, eh bien les plaintes augmentent de nouveau. Sommes-nous plus sensibles à nos propres douleurs les jours de mauvais temps, ou est-ce la météo qui influence réellement nos articulations? Cette étude ne parvient pas à répondre à la question, mais sera certainement suivie par d'autres. Le caillassage préhistorique. Selon une étude anglo-saxonne, les hommes préhistoriques étaient capables de repérer dans leur environnement les projectiles au meilleur potentiel balistique et meurtrier. Les chercheurs ont analysé et soupesé 55 cailloux ronds découverts dans la grotte de Hearst en Afrique du Sud, vieux d'environ 500 000 ans. Ils ne portaient aucune trace de percussion, signe qu'ils n'étaient pas employés pour tailler ou écraser. En revanche, des simulations mathématiques ont estimé l'impact de ces différents boulets lancés à 25 mètres sur un gibier de taille moyenne. Résultat, 81% des munitions seraient parfaites pour provoquer des blessures invalidantes. Et puis les jeux alimentaires rendent votre chat heureux. Les chats qui mènent une vie sauvage mangent plusieurs petits repas par jour. Les chercheurs américains recommandent donc ces jeux alimentaires afin de permettre à ces animaux de réfléchir et d'agir comme ils le feraient donc à l'état sauvage. À l'origine, créés pour les animaux vivant dans des zoos ou dans des laboratoires, les jeux délivrant la nourriture après l'exécution d'une tâche particulière permettrait d'éviter divers problèmes de santé tels que le diabète, l'obésité ou encore les douleurs articulaires. Sans stimulation physique ou cognitive, eh bien les chats développent également des troubles du comportement, comme le stress.